public, Philippe Roth, sa vie, son œuvre, avec Alice Fernet et Éric Neuhoff. Préface de son livre, Sade, Fourier, Loyola, Roland Barthes écrit « Si j'étais écrivain et mort, comme j'aimerais que ma vie se réduisît par les soins d'un biographe amical et désintéressé à quelques détails, à quelques goûts, à quelques inflexions, disons des biographèmes dont la distinction et la mobilité pourraient voyager hors de tout destin et venir toucher à la façon des atomes épicuriens, quelques corps futurs. » Blake Bailey, le biographe de Philip Roth, est certes amical, mais il se veut exhaustif. Il n'oublie rien. Son livre, dont la traduction française vient de paraître, est une somme de plus de 900 pages. Mes invités, la romancière Alice Fernet et le romancier et journaliste Éric Neuhoff, ont lu cette biographie monumentale et en me plaçant sous la haute autorité de Barthes, je voudrais leur demander quels détails les ont frappés, quelles anecdotes ils ont retenues, de quels biographèmes ils ont fait leur miel. Alice Fernet.
Alors la biographie effectivement en compte beaucoup et énormément de choses m'ont touchée. J'aurais tendance à me concentrer sur celles qui vraiment parle de l'écrivain encore plus que de l'homme. Alors la première, ce serait par exemple, je n'ai pas lu Updike, mais j'ai été très touchée par le fait que quand Philippe Roth le lit, à un moment il dit « Le héros de Updike est vendeur chez Toyota, la conscience d'un vendeur chez Toyota n'a pas de secret pour Updike, j'arrête d'écrire ». Donc déjà quelque chose autour de ses doutes, c'est-à-dire même un romancier comme Philippe Roth, 31 livres, 60 ans d'écriture, à ces périodes de doute. Ça, c'est la première chose qui m'a énormément touchée. Et puis ensuite, ce qui m'a beaucoup touchée, c'est tous les éléments qui révèlent le prix de l'œuvre. Je l'ai éprouvé comme un double prix à payer. D'abord, en matière de quelque chose autour de la solitude. C'est-à-dire que dès le début, Philippe Roth, qui est, à mon avis, quelqu'un qui a un sens, ce qu'il appelle le bon juif en moi, un sens des responsabilités inouïes, décide de ne pas avoir de famille. Ça lui coûte même un premier mariage qu'il ne voulait pas, puisque pour la femme avec qui il vit n'est pas son enfant, il l'épouse. Et tout ce choix de vie, toute cette primauté de l'œuvre induit une solitude immense. J'ai été bouleversée par moments, par chaque fois qu'une histoire d'amour se termine, il est dévasté et ses amis sont obligés de venir dormir chez lui parce qu'il a des crises d'angoisse inouïes. Ça, c'est quand même, on a du mal à imaginer cet homme tellement dans la maîtrise et dans la perfection qui tombe dans des trous pareils. Ça m'a énormément touchée. Et l'autre chose qui m'a aussi frappée, et qui d'ailleurs révèle, j'ai découvert la vitalité de la vie intellectuelle américaine, de la critique américaine, parce qu'on a vraiment le sentiment que les critiques de ces livres sont longues et détaillées, mais c'est le nombre incroyable d'attaques auxquelles il a été obligé de répondre tout au long de sa vie. Et ça m'a frappée parce qu'à un moment, justement, dans Pastorale américaine, quand il parle de la beauté de Dawn, l'épouse de Seymour Levoff, il dit « Il en est de la beauté comme de tous les traits excessifs qui singularisent, qui rendent exceptionnels, qui font qu'on vous envie et qu'on vous hait. » Et tout au long de la biographie, avant même que d'ailleurs j'ai relu cette phrase dans Pastoral que j'ai lu hier, j'ai pensé à ça. Je me suis dit un tel talent, une telle quantité de travail, parce que c'est pareil aussi, j'étais très frappée par l'anecdote quand il parle à la petite fille Amélia de Julia Golière, qui est une de ses anciennes maîtresses. Elle lui dit qu'elle a envie d'être célèbre et il lui dit la gloire se conquiert par un travail acharné et par l'art de cultiver son talent, et c'est barbant d'être célèbre. Ça aussi, ça m'a beaucoup frappée parce que là, il parle en connaissance de cause. Donc, tous ces éléments-là, la solitude, la passion du travail et le perfectionnisme, et puis l'angoisse profonde que l'homme a vécu.
Un mot avant de donner la parole à Éric Neuhoff. Updike. Il avait une profonde admiration pour John Updike, ainsi que pour Saul Bellow. Et John Updike ne la lui a pas vraiment rendue. C'est ça aussi qui est très intéressant dans ce livre. Ils étaient proches, ils étaient amis. Mais quand Philip Roth publie l'opération Shylock, John Updike le démolit, ce livre. Et Roth en a beaucoup souffert. Et il y avait chez Updike un sentiment de rivalité dont Roth est malgré tout exempt. C'est-à-dire, il s'est admiré alors même qu'il lui aussi veut être le plus grand. Et puis d'autre part, vous avez raison, je crois, Alice Vernet, de souligner ce terrible parcours d'écrivain de Philip Roth, c'est-à-dire qu'on en parlera, on lui a refusé le Nobel, et on s'interrogera sur cette décision des Nobel, de ne pas les décerner de prix, mais la critique américaine ne l'a jamais épargné. Et je parle de la critique haut de gamme, de la critique distinguée. Je parle du New York Times, Michiko Kakutani. Oh, mais elle se déchaîne article après article. Elle descend en flamme le théâtre de Sabbath, un homme, Némésis, exit le fantôme. C'est-à-dire, on est effaré et consterné devant ce tableau de chasse. Et si Philip Roth avait continué d'écrire, étant donné l'évolution du New York Times, ça aurait été, si l'on peut dire, encore pire. Mais Eric Neuf, quels sont vos biographèmes à vous ?
Moi, c'est comme si une biographie à l'anglo-saxonne. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les petits détails qu'on grappille ici et là. Dès le début, on tombe sur Tarnopol, qui est le nom d'un des personnages de Ross, et qui est aussi la ville de ses ancêtres, ce que j'ignorais. Et c'est cité comme ça au fil de la plume. Et moi, qui ai un petit côté concierge, c'est toutes ces liaisons, moi, qui m'ont semblé dévoiler un appétit et une joie de vivre étonnante. Là. Et aussi, on voit tout au fil des pages l'humour permanent, à la fois sur les autres et sur lui-même, qu'avait Philip Roth. Même son obsession du Nobel qu'il appelait le prix n'importe qui sauf Philip Roth. Il aurait été content cette année, sans doute. Et puis vous parliez d'Updike, mais j'ai découvert aussi qu'il a toujours fait la course avec Updike tout au long de sa vie et de son œuvre. Et il ne faut pas oublier qu'Updike s'est sans doute inspiré de quelqu'un comme Roth pour créer Beck, un personnage d'écrivain juif, un peu comme Roth avait créé son Zuckerman. Et ça a dû jouer sans doute dans la rivalité des deux écrivains. Ça.
Mais vous êtes enchanté des récits, Eric Neuf, de sa vie amoureuse, sa vie sexuelle, trépidante,
adolescente toujours,
exubérante et adolescente, vous avez raison. Mais alors là, justement, il y a eu un premier biographe, on le sait, on en parlera, Ross Miller, que Roth a été obligé de congédier, étant donné la némésité grandissante dont ce biographe faisait preuve vis-à-vis de lui. Mais justement, à un moment donné, il lui demande de préparer un synopsis de la biographie qu'il souhaite écrire, et il se rend compte que Miller parle de sa vie sexuelle sans chercher le sens qu'elle peut avoir. Et il dit, enfin, c'est extraordinaire, vous faites comme si c'était l'histoire de mon pénis. Mais c'est pas mon pénis qui a écrit 35 livres. Mais je me demande quand même si ce reproche ne peut pas s'appliquer un peu à Blake Bailey, parce qu'on a droit à toutes ces aventures, les unes après les autres, sans forcément que ça fasse sens. Ou vous pensez que ça fait sens, finalement?
J'ai pas besoin qu'on me dise si ça fait sens ou pas. Moi, ce que j'ai envie d'apprendre, c'est les faits sur les écrivains. J'ai pas besoin qu'on me dise comment le lire. Et c'est ça qui est bien dans la biographie comme ça. Et puis, cette espèce d'appétit insatiable. Et moi, je savais pas qu'il avait eu une liaison très brève, visiblement, avec Jackie Kennedy.
Non, il l'a pas eu, justement.
C'est avec Barbara Streisand qu'il l'a pas eu.
Il dit même un type qui a deux costumes, qu'est-ce qu'il va aller faire?
C'est moins clair que ça.
Il sait pas tout à fait faire. Il a une brève liaison, je pense qu'on peut le dire.
Il y a des anecdotes très rigolotes. Il dîne un soir à côté de Ava Gardner, et il écrit à Saul Bellow, si j'avais cru un jour être jaloux de Mickey Rooney. et c'est en permanence comme ça. Il a un recul.
Je crois qu'il a eu une liaison liaison avec Ava Gardner. Alors, ah, elle est plus âgée que lui. Ouais.
Et Nicole Kidman aussi, ouais, vers la fin. Et Nicole Kidman, avec qui visiblement ça n'a pas marché, qui lui fait dire par un ami, il faudrait qu'il grandisse un peu. Et moi, je trouve ça très touchant.
Parce qu'il était vexé, elle lui avait posé un lapin.
Et c'est là qu'on voit que quand Ross disait, mais je ne suis pas mon héros, il ne faut pas m'identifier, mais on découvre que c'est vrai. Il est encore plus obsédé que Portnoy dans la vie. Et c'est ça qui est assez touchant.
Alors, moi, je trouve ça normal que Bellet n'élude pas aucune femme, parce que par ailleurs, ça nous donne beaucoup ses modèles. C'est-à-dire qu'on voit très très bien. Alors, sans coïncidence entre le moment où il écrit et l'histoire qu'il vit. C'est-à-dire toutes ces femmes, on l'a beaucoup attaqué sur ces personnages féminins, mais on voit que ces personnages féminins viennent de femmes réelles. Et c'est ça qui est intéressant. Et puis par ailleurs, moi j'ai été très touchée justement à propos des femmes. Et un de ses grands amours, Barbara Sproul, est déçue qu'il ait toujours envie de se justifier et d'être compris. Et j'ai été aussi très touchée à un moment quand il a ce cri du cœur justement envers ce premier bruyographe, Ross Miller, en lui disant « Mais pourquoi tu mens ?» Et puis ensuite, quand il écrit sa réponse à Claire Bloom, il dit « Mais c'est la vérité » quand ses amis lui disent « Ne le publie pas ». Et moi, ça m'a bouleversée. Ce besoin, effectivement, de vérité. Parce que pour moi, c'est vraiment la marque de toute son écriture
et finalement de sa vie d'homme. Mais il ne cesse de dire, Alice Fernet, qu'il ne faut pas prendre ses livres pour des confessions, que ce n'est pas la peine de chercher des modèles, car la vérité, elle est aussi trouvée par le travail de l'imagination.
C'est une des choses très intéressantes qu'il dit dans le livre. À un moment, il dit qu'il y a un savoir qui vient de l'écriture, même pas de l'écriture d'un livre, de l'écriture du livre qu'on est en train d'écrire. Oui, tout à fait.
Et on voit le travailleur acharné qu'il était aussi.
Ah oui, oui.
C'est que tout fait mot.
C'est vrai. Il ne pouvait pas rester plusieurs jours sans rien faire. Il venait à Paris quand il était à Londres et il disait au bout d'une semaine ou 15 jours « I feel pointless ». Je me sens inutile. Donc il faut immédiatement que...
D'un autre côté, c'est quelqu'un qui a décidé d'arrêter d'écrire. Et c'est très rare, ça, comme exemple.
Oui.
On va parler du rabaissement. Là, l'histoire d'un acteur qui... Il avait perdu sa magie, c'est la première phrase. Et on se rend compte que c'était ce qui arrivait à Ross. Et le livre n'est pas son meilleur roman, mais c'est un symptôme de ce qui lui arrive. C'est à la fois un acte de lucidité et de courage d'arrêter d'écrire.
Par ailleurs, c'est aussi la preuve, parce qu'à un moment, Bellet dit que Roth disait que le mot « surengagement » était le mot-clé quand on parlait d'un écrivain. Bon, évidemment, il pensait à lui-même. Et en fait, effectivement, ce surengagement... devient un moment impossible. C'est-à-dire, moi, j'ai le sentiment que c'est comme un sportif qui arrêterait l'entraînement. C'est la façon, parce que, par exemple, quand il arrête d'écrire, il dit « c'est merveilleux, je peux aller à un dîner et je ne suis pas obligée de prendre des notes en rentrant ». Donc, on comprend qu'à ce moment-là, toute sa vie, et par exemple, quand son père meurt, moi, je m'étais demandé comment Patrimoine avait été écrit. Est-ce que ça a été écrit après la mort de son père ? Non, ça a été écrit pendant la mort de son père.
Après la...
Donc, en fait, on voit bien,
une vie entière dévouée à l'écriture. Et c'est vrai, un jour, il finit Némésis, il ne trouve pas de sujet, il téléphone à ses amis.
Faites la liste des catastrophes.
Donnez-moi un sujet. Ouais. Et puis un jour, il se réveille, je n'écris plus, il s'est senti délivré, soulagé, en effet. Peut-être y avait-il une forte mélancolie, mais il a été délivré. Et il a annoncé, en effet, la même année que Ratzinger, sa retraite.
Il a quand même écrit aussi, à ce moment-là, les notes pour mon biographe, qui sont assez abondantes.
Il n'a pas arrêté d'écrire,
Mais de publier.
La muse romanesque l'avait quitté.
C'est le moment où il dit, il y a trois choses que j'ai cessé de faire, baiser, lire, écrire. Ça a l'air d'être faux, en tout cas.
Ça a l'air d'être faux. Il ne lisait plus beaucoup de romans, mais il lisait notamment des livres d'histoire américaine. Alors, personnellement, je dirais brièvement que ce que j'ai retenu, notamment de cette biographie impressionnante, c'est d'abord l'incroyable générosité de Philip Roth. Véronica Geng, par exemple, l'éditrice qu'il connaît, est atteinte d'une tumeur cancéreuse à 55 ans, elle va bientôt mourir. Il paie ses frais médicaux. Nous sommes en Amérique, elle n'a pas d'assurance. Il le fait aussi pour cette femme Sylvia, qui sera le modèle de Fonia Farley. Quelques anecdotes aussi très belles sur ses parents. Il écrit donc « Complexe de Portnoy ». Il en publie des extraits dans des revues. Il se rend compte que ça va être énorme. Il va voir ses parents. Il est en téléphone. Il dit « si on vous embête en disant « Est-ce que c'est vous le modèle ?» etc. « Vous pouvez raccrocher, ça ne me fait rien. » etc. Et, donc, et la mère, à l'issue de l'entretien qu'ils ont, fond en larmes en disant « Il a la folie des grandeurs. Il est complètement fou. Il va être très déçu. »
Il n'était pas comme ça aussi.
Il va être très déçu. Une mère aussi qui, lorsque son mari a pris sa retraite, c'est un mari obsessionnel, un peu autoritaire, l'avait tous les jours sur le dos, et elle a eu cette phrase que j'ai relevée dans le livre, « Je l'ai épousé pour le meilleur et pour le pire, mais pas pour le déjeuner. » C'est quand même
Et d'ailleurs, c'est très intéressant, parce que quand elle s'est plaint auprès de Philippe Roth, c'est un peu une réponse aux misogynes. Il lui dit « Mais impose-toi, et si ça ne va pas, quitte la table. » Donc, il ne dit pas du tout à sa mère « Tais-toi et... »
Oui, au contraire.
Pas du tout.
Non, mais les parents ont dû être rassurés et n'étaient pas si pudibonds que ça, parce que quand Portnoy est sorti, il y a une histoire de croisière où il y a le père qui est là, qui dit à tous les passagers « Je vais vous donner le livre dédicacé. » Et c'est dédicacé par lui, par le père de
Roth. Oui, c'est ça, oui.
Et, lui ne cessait de répéter « Bess, sa mère, Bess Roth, n'est pas le modèle de Sophie Portnoy », ce qui est vrai. Ses parents n'étaient pas
Portnoy. Et c'est pour ça qu'ensuite, c'est intéressant de voir que dans plusieurs livres, il écrit sur sa famille. Bon, déjà dans le complot contre l'Amérique, il écrit vraiment. Et c'était aussi justement pour écrire sur sa vraie famille, pour qu'on cesse de prendre sa mère pour le modèle
Ça, c'est dans le complot. Et d'ailleurs, il était très content de ce livre, qui est une uchronie, puisqu'il imagine que Lindbergh arrive au pouvoir, un nazi, etc. Il est très content parce qu'il avait restitué dans sa vérité la parole de sa famille, de ses parents et de son frère.
Avec un détail faux que j'ai trouvé terrible, c'est que dans le livre, il fait de son frère un partisan de Lindbergh.
Ah oui, c'est vrai.
Ça, c'est évidemment faux.
Mais c'est d'ailleurs assez rigolo, ce livre aussi, c'est que... C'est un roman, mais on voit que la famille en question vit exactement la même vie que si Lindbergh n'avait pas été élu.
C'est
ça qui est...
Alors, une autre chose qui m'a beaucoup frappé, c'est la précocité et la force de l'accusation d'antisémitisme. Il a été ensuite, à partir de Ma vie d'homme, accusé de misogynie, et ça continue. Mais j'ai lu cette phrase effrayante d'un grand penseur juif, quand même, israélien aussi, Gershom Scholem, qui dit quand même, à propos de Portnoy, « C'est le livre que tous les antisémites appelaient de leur vœu, il écrit ça dans Haaretz, ce sera nous, les juifs, qui en paierons le prix, et non pas l'auteur qui se vautre dans ses obscénités. Il y a lieu de penser qu'au prochain tournant de l'histoire, lequel ne saurait tarder, ce livre nous mettra tous sur le banc des accusés. » On nous le citera, et comment ? On nous dira, vous avez le témoignage de l'un de vos propres artistes. Et c'est une accusation dont Roth a beaucoup souffert, d'autant plus qu'il était extrêmement sensible à toute forme d'antisémitisme. Et, par exemple, une de ses premières rencontres avec Salman Rushdie, il parle de l'opération Moïse, c'est-à-dire du transfert des Juifs éthiopiens en Israël. Et Roth dit son enthousiasme. Et Rushdie lui répond « Ah bah oui, ils vont les mettre dans des camps de concentration. » Et à ce moment-là, Roth lui dit « Va te faire foutre. » ce n'est pas le dernier mot de leur relation. D'ailleurs, dans le livre d'essais de Salman Rushdie qui vient de paraître, il y a quelques très belles pages sur Roth. Mais cette question, il était comme beaucoup de Juifs, le hantait. Alors, que lui-même ait été accusé d'antisémitisme, c'est une souffrance particulière qui est d'ailleurs très présente dans ses
opérations. D'autant que l'accusation de haine de soi, c'est une accusation à laquelle on ne peut pas répondre, puisque d'une certaine façon, la haine de soi est forcément inconsciente. Donc il était complètement coincé par cette accusation.
Oui. Et d'un autre côté, il disait « Je ne suis pas un écrivain juif, je suis écrivain et juif. »
Oui, bien sûr.
Américain et juif.
Ah oui, il disait « Américain ».
Et le judaïsme, la judéité, c'est mon matériau.
Oui. Et il disait aussi que l'Amérique était le pays fait pour les juifs tout le temps.
Oui.
Mais il était très content à la fin de sa vie d'avoir été reconnu comme le plus grand sociologue de la vie des juifs américains. Donc la reconnaissance est venue à la fin de sa vie.
Mais d'ailleurs, au moment de Patrimoine, il y a une réconciliation entre Roth et la communauté juive. Et il disait, « I am loved, je suis aimé, what did I do wrong ?» Qu'est-ce que j'ai fait de mal ? Mais d'un autre côté, il était ravi de cette réconciliation parce que les accusations dont il était l'objet le faisaient beaucoup souffrir. Deuxième accusation, j'en ai parlé, misogynie. Ça a commencé avec ma vie d'homme, ça a été ravivé avec l'autobiographie, les mémoires de sa deuxième épouse, Claire Bloom, Living Doll's House, et c'est la raison pour laquelle, malgré la trilogie américaine, cette éruption shakespearienne, il a été le non-lauréat annuel du prix Nobel pendant à peu près 2 décennies. Mais alors je me tourne vers vous, Alice Vernet. Vous êtes une femme, vous êtes romancière, l'œuvre de Philip Roth compte beaucoup pour vous. Est-ce qu'à un moment donné ou à un autre, vous l'avez ressenti comme un auteur misogyne ?
Non, je ne l'ai pas ressenti comme un auteur misogyne, mais je l'ai ressenti comme un auteur, et j'imaginais comme un homme pour qui, effectivement, les femmes comptaient énormément. Donc, un homme à femme, ça c'est...
Et
sa biographie le montre bien, un immense séducteur. Mais ce que j'ai trouvé intéressant, et ça fait référence à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il s'est interrogé. Moi, j'ai été intéressée par l'interrogation qui traverse ses livres. C'est pour ça qu'on parlait de La bête qui meurt est intéressant. Dans La bête qui meurt, il interroge effectivement à la fois les pratiques et la signification le poids de la sexualité dans la vie humaine, finalement. C'est pas juste anecdotique, sa manière de traiter les choses. Donc, ça m'a toujours intéressée. Et c'est drôle parce que je réalisais que le seul de ses livres qui m'a par moments gênée, mais il disait que c'était un livre magistralement scandaleux, c'est Le Théâtre de Saba, où effectivement il y a quelques scènes où je me suis dit il va très très loin dans la présence de la sexualité. Par exemple, quand je me souviens, parce que je ne l'ai pas relu, mais le héros d'Orche est accueilli, donc Mickey Sabat est accueilli chez un de ses amis, qu'il fait dormir dans la chambre de sa fille qui n'est pas là, et que fait Mickey Sabat? Il se branle dans les petites culottes de la fille. Bon, c'est vrai que là, pour le coup, je me suis dit, tiens, il a réussi à me choquer. Mais j'ai jamais pensé à lui comme un misogyne, et je trouve que quand on lit la biographie, bon, alors, si avoir de nombreuses aventures amoureuses, c'est être misogyne, dans ce cas-là, il l'est, mais moi, c'est pas mon point de vue. Par ailleurs, au contraire, j'ai été très frappée par le mal qu'il se donne pour aider ses compagnes. Alors, on a parlé tout à l'heure, effectivement, de l'argent. Ça, il est très généreux avec l'argent. On sent bien qu'il a de l'argent et il s'en sert quand même pour aider les autres. Mais par ailleurs, par exemple, dans son histoire avec Claire Bloom, le mal qu'il se donne, il écrit des pièces, il écrit des adaptations, par exemple de Tchekhov, pour elle. Il cherche des rôles pour elle. Il la fait répéter pendant des heures en réfléchissant sur les personnages. C'est pas du tout un homme qui se soucie pas de sa femme, de la carrière de sa femme, de la réussite de sa femme et du talent de sa femme. Donc, je n'ai pas trouvé, justement,
Mais
des preuves
d'un autre côté,
de misogynie.
On peut dire aussi, vous parlez du théâtre de Sabat, l'héroïne... l'amie de cœur et de sexe de Saba, Drinka Balic, une croate, est un personnage, aux yeux de Philip Roth, très positif, de même que Fonia Farley. Donc on ne peut pas dire que... Parce qu'effectivement, dans Ma vie d'homme, il peint Maureen, qui est...
Sa première femme.
Oui, c'est sa première femme. C'est une sorte de monstre. Mais tous les personnages féminins sont loin d'être des monstres chez Philip Roth.
Oui, en même temps, c'est assez amusant, vous citez Drenka et Fonia Farley, qui sont deux femmes très libérées face à la sexualité. C'est-à-dire, dans cette époque, parce que c'est quand même une chose aussi qu'on oublie, il est né en 1933. Il appartient à sa génération dans sa façon de parler des femmes. Et bien sûr, ça a considérablement évolué. Donc on ne devrait pas non plus le juger
ça,
avec les
critères. Il faut dire une chose, c'est que sa première femme était gratinée. Elle lui a quand même fait des coups tordus. Là. Faire croire qu'elle était enceinte de lui alors que c'était entièrement faux.
Elle va dans un parc.
La scène est hallucinante.
Un échange. C'est-à-dire, elle veut faire croire qu'elle est enceinte. Donc elle demande à une femme noire visiblement enceinte de lui donner son urine de façon à faire croire à Philippe Roth qu'elle est enceinte et à l'obliger au mariage. Ça l'a traumatisée. C'est une anecdote reprise dans Ma vie d'homme. Mais dans les faits, il est extraordinaire. Il dit elle a été, avec cette invention inouïe, la meilleure de tous les professeurs d'écriture créative qu'il ait jamais eu. Et donc, il la remercie de cela, mais c'était une femme terrible. Et on ne lui pardonne pas d'avoir dépeint une femme terrible.
Mais je me suis aperçu de ça, moi, je n'avais jamais pensé à la misogynie de Ross. Il y a 20 ans, j'étais allé l'interviewer dans le Connecticut, et pardon de parler de moi, le soir, à New York, j'avais dîné à côté de l'agente de Claudia Schiffer. Et je lui dis, je suis allé interviewer Philippe Ross, et elle me dit, c'est le plus misogyne de tous nos écrivains. Elle m'a tourné le dos. Et c'était pas une prof de Harvard, hein, c'était l'agent d'un mannequin, la fille.
Ah oui.
Alors là, je me suis dit, oui, il est mal barré dans son pays pour ça. Alors que les personnages de femmes sont très réussis. Et puis de toute façon, un romancier est un romancier. Il peut être misogyne, tout ce qu'on veut. Ce qui compte, c'est la qualité du livre. Hein.
La qualité du livre, mais aussi la qualité des personnages.
Oui, bien sûr.
Et des personnages féminins. Mais là, j'ai une question plus large à vous poser, parce qu'on rend hommage à Philippe Roth. On le reconnaît comme un grand écrivain. Et d'un autre côté, j'ai l'impression que ce qu'il nous dit reste complètement lettre morte. Et à travers lui, c'est même la littérature qui disparaît de notre vision du monde. Je pense à une affaire qui n'a rien à voir avec Roth, puisqu'elle lui est très postérieure, et qui secoue la France aujourd'hui, l'affaire Adrien Quatennens. Pourquoi y pensais-je ? J'ai vu l'autre jour à la télévision une personnalité politique très estimable, Juliette Méadel. Elle entend la confession de Quatennens, qu'il avait faite à la télévision aussi. Il dit « J'ai donné une gifle, je suis inexcusable, j'accepte ma peine, mais 4 mois de prison avec sursis quand même. » Mais je veux le sens de la proportion et je veux le sens de la mesure. Juliette Méadel réplique, après avoir entendu ce passage, que sa posture est indigne, qu'il se fait passer pour une victime et que c'est une insulte à toutes les femmes victimes de violences conjugales. Et là, on n'est plus du tout dans la vision littéraire du monde. C'est toutes les femmes victimes de violences conjugales. Qu'est-ce que c'est que la littérature pour Philippe Roth ? C'est la spécificité, c'est la particularité. Maintenir la particularité dans un monde qui simplifie et généralise, c'est la tâche dans laquelle il faut s'engager, écrit-il dans « J'ai épousé un communiste ». Il n'y a plus de particularité. Il y a toutes les femmes victimes de violences. Et en plus, la gifle devient, si vous voulez, le concept dans lequel ce député est enfermé, le député gifleur, disait Jean-Michel Apathy. Donc, il ne peut pas en sortir. C'est un gifleur, et il le sera à jamais. Mais ça veut dire que la littérature, qui est vraiment le special case, comme dit Henry James, n'a plus sa place. Elle disparaît des consciences. Donc, Philippe Roth, on le célèbre, mais on ne le lit plus.
En tout cas,
la littérature n'imprime pas.
Il avait déjà prévu ça dans Tromperie, c'est la scène du tribunal, où toutes les femmes accusent le héros des turpitudes les pires du monde. Ouais. C'est étonnant, ça.
Mais voilà, on en est là aujourd'hui. Et donc, si vous voulez, la littérature disparaît au profit d'une bêtise monstrueusement fanatique ou d'un fanatisme monstrueusement bête. Et on est obligé de vivre là-dedans. Vous êtes d'accord ?
Josiane Savigno en parle dans le livre qu'elle a publié peu après que Roth avait annoncé qu'il arrêtait d'écrire. Et elle raconte qu'en 92, elle lui parle du politiquement correct et qu'il lui dit qu'il y croit pas, que ça ne concerne qu'une élite, une petite élite dans les universités. Et puis finalement, dit-elle, en 2000, il écrit La Tâche et il s'aperçoit que le phénomène prend de l'ampleur puisque finalement l'histoire à l'origine de la tâche est arrivée réellement à un de ses amis à Princeton.
Et donc, mais alors quels sont les romans qui vont le plus marquer dans l'œuvre de Philip Roth? Alice Fernet, si vous voulez commencer.
Alors, c'est amusant parce que j'ai essayé de repenser à la chronologie de ma découverte de Roth, puisqu'il commence à écrire en 59, moi j'étais pas encore née, et je me suis aperçue que je l'ai lu pour la première fois en 94, et ensuite, donc j'ai pris son œuvre au milieu, puis je l'ai d'une certaine façon rattrapé, et tous les derniers, je les ai lus au moment où il paraissait. Et je me suis rendu compte que je l'ai lu avec modération pendant un certain temps. Et c'était Portnoy,
comme un alcool dangereux.
Le Saint, le patrimoine. Et puis j'ai eu un choc qui m'a vraiment fait tomber dans une sorte d'envoûtement de Roth avec Exit le fantôme. J'ai beaucoup réfléchi à la raison pour laquelle j'avais eu ensuite cette passion. Et je crois que c'est parce que, et j'ai d'ailleurs la biographie le dit très bien, que quand Roth a commencé à écrire, il a été très marqué par Salinger et il a compris à quel point un livre était une voix et il a cherché sa voix. Et en fait, dans Exit le fantôme, où en fait il parle d'ailleurs, il prête à Zuckerman, son double, des problèmes physiques qui sont arrivés à son frère Sandy.
Et pas à lui.
Pas à lui.
Et ça, il y a tout le temps. Voilà, c'est ça,
exactement. C'est un livre qui vous saisit dès le début. Vous avez l'impression vraiment d'être dans la vérité. Vous oubliez complètement. C'est une voix qui vous parle. Je pense d'ailleurs, pour moi, le génie de Roth a été ça. De comprendre que quand c'est une voix qui vous parle, vous êtes un lecteur complètement captif. Et c'est pour ça que la plupart de ses livres sont construits toujours comme un jeu, qui peut être son double, il a plusieurs doubles, un jeu qui parle ou de lui-même, ou un jeu qui parle d'un « il », comme dans La Tâche, par exemple, Zuckerman parlant de Pullman Silk, mais c'est toujours un jeu, c'est-à-dire une énorme présence littéraire. Et en fait, moi, j'ai été totalement happée par cette capacité du livre à vous faire oublier qu'il est un livre, à cause de la voix.
Alors c'est très intéressant ce que vous dites sur Exit le fantôme, parce qu'il s'agit donc de Zuckerman qui revient à New York, et il y rencontre notamment un jeune homme, Richard Kleinman, qui veut être le biographe de Lonoff, l'extraordinaire écrivain de l'écrivain des ombres. Et ce biographe veut déterrer le secret de Lonoff, autrement dit l'inceste, la relation incestueuse qu'il aurait eue avec sa demi-sœur. Et il y a premier dialogue entre Zuckerman et ce Kleinman, parce que Lonoff est oublié, et dit il va restaurer sa réputation. Et donc Zuckerman répond à Kleinman: vous comptez donc restaurer la réputation de l'écrivain Lonoff en ruinant celle de l'homme. Remplacer le génie du génie par le secret du génie, la réhabilitation par le déshonneur. Un peu plus loin, on voit Ami Bellet, un personnage extraordinaire qui était dans l'écrivain des ombres, qu'il revoit à New York très diminué, très, très malade. Et cette Ami Bellet, elle est poursuivie par Kleinman et elle dit qu'il faut se débarrasser de ce bonhomme parce que ce qu'il fait, si vous voulez, c'est en quelque sorte, c'est l'art tué par le ressentiment. C'est le ressentiment du biographe, et elle montre à Zuckerman une lettre qu'elle a envoyée au New York Times après un article sur Hemingway. On allait chercher les modèles de Hemingway. Et il dit, elle s'indigne du réductionnisme biographique du journalisme, et avec cela, l'essence de l'œuvre d'art disparaît. Quelle transgression l'écrivain a-t-il commise? Et ce, non pas à l'encontre d'exigences d'ordre esthétique, mais à l'encontre de sa fille, son fils, sa mère, son père, son conjoint, sa maîtresse ou son amant, son ami, son éditeur, son animal de compagnie. Il dit ça. Voilà ce que vous cherchez à faire. Et c'est tout à fait extraordinaire, parce qu'en 2021, est paru dans l'Obs un article intitulé « Les derniers secrets de Philip Roth », dans lequel on disait ce Beck Bailey, il est louche, parce qu'il a été accusé d'agression sexuelle, et c'est comme si c'était noué. un pacte de phallocrate entre les deux hommes pour dissimuler les secrets de Philippe Roth. Et donc, le livre ne doit pas être pris au sérieux. Et ce pauvre Blake Bailey, pour justifier son livre, dit certes, il y a des choses qui auraient plu à Philippe Roth, mais il y a aussi certaines choses qui auraient été extrêmement mortifiantes s'il avait pu en prendre connaissance. Donc voilà, j'ai fait une bonne biographie parce qu'il y a des passages que l'auteur que j'ai choisi aurait détesté. Comme si le rôle de le biographe, c'était, alors là pour le coup, de rabaisser l'écrivain, l'artiste, au niveau commun, et peut-être même de montrer qu'il est un peu pire. Voilà, comme ça, notre désir d'égalité est satisfait par une biographie que le ressentiment inspire. Ce qui me fait penser, et j'en aurais terminé, à cette phrase extraordinaire de Suran. Il est incroyable que la perspective d'avoir un biographe n'ait fait renoncer à personne à avoir une vie.
Mais Rose disait un peu la même chose. Elle disait deux choses m'attendent, la mort et mon biographe. Je ne sais pas laquelle est la pire.
Oui.
Mais maintenant, on attend la biographie de Blake Bailey.
Oui, alors, le livre a été d'ailleurs... la parution a été suspendue aux États-Unis. Un nouvel éditeur l'a fait paraître. Et Gallimard a choisi de publier la traduction parce qu'aucune accusation n'est allée loin. Oui. C'est-à-dire, aucune plainte n'a été déposée contre Blake Bailey. Mais vous, Eric Neuf, quels sont les livres qui vous ont marqué?
J'aimais beaucoup Professeur de désir et Ma vie d'homme, là, à cause de cette alacrité, cette voix aussi personnelle et originale que celle de Salinger dans L'attrape-cœur. Et puis on pouvait se dire que Philippe Roth était un écrivain tellement nombriliste, narcissique, mais ce n'était pas un défaut. Et dans Pastorale américaine, cet homme qui n'a jamais voulu avoir d'enfant se met dans la tête d'un père qui tremble pour sa fille qui est devenue terroriste pendant la guerre du Vietnam. Et on a découvert que là, c'était un romancier prodigieux. Donc, ce n'était pas seulement quelqu'un qui s'intéressait à ses petites histoires personnelles. Et il y a là-dedans, le héros là, est un fabricant de gants. Il y a des pages sur la confection des gants qui sont magnifiques et qui valent tous les chapitres d'Illusions perdues sur la fabrication du papier. C'est quelque chose d'étonnant ce qu'il a fait là.
Il a une passion d'ailleurs pour l'artisanat.
Et
joaillier, gantier, boucher même.
Un artisan du verbe, lui, a visiblement.
Et lui-même, d'ailleurs, le livre traduit par non travail, le titre anglais, c'est Choctaw. Donc c'est vraiment, il s'inscrit dans cette transition-là, c'est vrai.
Et il y a, à propos de biographie, il y a une histoire assez drôle. C'est dans C'est pourquoi écrire, hein, le titre en français. Ouais. Il rappelle que sa fiche Wikipédia est truffée d'erreurs.
Oui.
Il écrit à Wikipédia et on lui répond « Vous n'êtes pas une source crédible pour corriger. »
Il y a toute une correspondance avec le...
Et on en est là. Oui, c'est intéressant parce qu'il y a quand même eu un tournant, me semble-t-il, à partir de Pastorale américaine. Zuckerman est là. Mais Zuckerman n'est plus le protagoniste central. Il le redevient plus ou moins dans Exit le fantôme. Mais dans la trilogie américaine, il ne l'est pas. C'est du statut de héros, il passe, si j'ose dire, au statut d'oreille. Et j'ai lu une phrase de Catherine Mansfield qui s'applique merveilleusement à Philippe Roth dans son journal. « Tout artiste coupe une oreille et la cloue à l'extérieur de sa porte pour que les autres viennent y crier. » C'est vraiment
c'est ce qui se passe.
Et c'est là, donc, tous les reproches qu'on lui faisait d'être un auteur égocentrique, qui transposait ses histoires avec Zuckerman, etc., ne valent plus rien. Il y a eu cette explosion.
C'est vraiment très intéressant, son talent. Parce que on sent que, moi, une chose aussi qui m'a beaucoup intéressée, c'est sa façon de travailler ses livres. Il raconte qu'il envoie son livre à 5 ou 6 personnes qu'il estime être des très très bons lecteurs, et il attend que ces gens lui racontent le livre tel qu'ils l'ont lu, et ensuite il retravaille. Et d'une manière générale, c'est quelqu'un, donc c'est pas du tout notre vision sacralisée de l'auteur tout seul. Au contraire, il écoute beaucoup, et entre autres, il écoute la critique, parce que moi j'ai trouvé très intéressant que Zuckerman, son double, apparaît après Kepesh, son premier double, parce que les critiques lui disent Kepesh, c'est ton double, mais c'est ton double libertin. Hein. D'ailleurs, il dit c'est les livres du désir. Mais il n'a pas ton intelligence. Et alors, paf, il crée Zuckerman qui a son intelligence. Ensuite, effectivement, il écrit son cycle, qui est finalement une espèce d'analyse de la vie de quelqu'un qui écrit. Et qui aime les femmes, on pourrait résumer comme ça, professeur de désir, leçon d'anatomie, etc. Et puis, il commence à avoir cette idée d'écrire, je trouve intéressant aussi, le déclic de Pastorale américaine. Il écrit 70 pages à partir de cette histoire vraie d'un homme dont la fille devient poseuse de bombes. Et il n'arrive pas à écrire le livre. Et finalement, le déclic du livre vient quand, ayant écrit ce personnage scandaleux de Mickey Saba, il a envie tout d'un coup d'écrire le roman d'un homme parfait, en quelque sorte, hein, Seymour Levov, et qui comprend qu'en fait, le livre ne doit pas avoir comme centre la guerre du Vietnam, mais ce héros, Seymour Levov, dont la fille, alors qu'il est formidable, va devenir une poseuse de bombes.
Une terroriste, une poseuse
de bombes. Et on voit toujours qu'il écoute tout.
Sabat's let the repelling in, faire entrer the repelling, le repoussant, et Levov, c'est let the repelling out, laisser le repoussant dehors. Mais une autre question qui va dans le sens de cette interrogation sur le statut réel de la littérature aujourd'hui, la littérature continue-t-elle d'habiter les consciences? Est-ce qu'on va continuer à lire Philip Roth? La tâche. La tâche est parue en 2001. C'est l'annonce du wokisme. C'est vraiment ce Coleman Silk qui est accusé de racisme par ses étudiants, alors même qu'on ne le sait pas, mais qu'il est noir, il se fait passer pour juif, non pas pour trahir sa communauté, mais pour être un individu à part entière, pour être un blanc, c'est-à-dire un blanc, en l'occurrence un incolore, on se fout qu'il soit blanc, il peut dire « je ». Bien, alors moi je me demande, est-ce que à l'heure de la critique de l'appropriation culturelle, ce livre peut-il avoir la place sur les campus américains? Et puis j'ai La bête qui meurt sous les yeux. Et La bête qui meurt, par exemple, donc c'est Kepesh qui revient, Kepesh qui est amoureux de Consuela. Il a 40 ans de différence d'âge, une étudiante absolument splendide, des seins magnifiques qui vont rêver le lecteur. Et il parle du désir. Il n'y a pas d'égalité sexuelle, il ne saurait d'ailleurs en avoir. Cette sauvagerie ne se négocie pas de manière quantifiable. On n'est pas dans le 50-50 d'une transaction commerciale. On plonge dans le chaos de l'héros et la déstabilisation radicale qui le rend si excitant. La domination change de camp en permanence, on vit en porte-à-faux. Tu vas voir à quoi mène la domination, tu vas voir à quoi mène la capitulation. C'est plus du tout comme ça qu'on parle. On parle de conversation des sexes, on contractualise, on voudrait contractualiser la relation érotique. Donc, je veux dire, notre temps s'éloigne de Philip Roth, et je me demande si un jour on ne va pas dire, mais non,
s'éloigne du roman tout court.
Oui, s'éloigne du roman tout court. Ouais,
c'est parce que maintenant, les films sont jugés à l'aune de leur sujet uniquement.
Oui.
On ne parle plus de la forme, du style des personnages, c'est de quoi ça parle. Est-ce que c'est devenu effarant? Et dans La tâche, il aggrave son cas, puisque le personnage regarde les femmes dans Greenwich Village et il dit « Ce fut l'âge d'or des jambes aphrodisiaques ». Alors ça, c'est une phrase qui ne passerait plus aujourd'hui. Et ça rappelle ce que disait Truffaut dans L'homme qui aimait les femmes, sur le même sujet, les jambes des femmes qui arpentent le globe terrestre en lui donnant son équilibre et son harmonie. À tel point qu'aujourd'hui, on dit que L'homme qui aimait les femmes est un film misogyne, machiste. Faire de Truffaut un macho, c'est quand même un comble. Et de Philip Roth aussi.
La seule chose qui était intéressante, je crois qu'à une remise de prix, Philip Roth considère que... se demande pourquoi les écrivains américains sont si exceptionnels. Il met là-dedans, évidemment, Updike, Meller, Styron. Et en fait, parmi les raisons, moi, il y en a deux qui m'ont beaucoup frappée. Une, parce qu'on peut vraiment l'entendre en tant que romancier français. Une des raisons qu'il donne, c'est parce qu'il se fiche de la responsabilité politique ou de l'engagement politique. Donc, pour faire de la bonne littérature, il ne faut pas vouloir être... Il dit même à un moment, d'ailleurs, je crois, la littérature n'est pas un concours de pureté morale. Ouais. Et puis, la deuxième chose qu'il dit, c'est 9 dixièmes des Américains se foutent complètement du roman et de la littérature. Et lui, il le voit presque comme une bonne chose, parce qu'il dit c'est enivrant pour un romancier. Et donc, d'une certaine façon, on peut rester optimiste.
Sauf que même ceux qui font profession d'aimer la littérature, qui sont des professionnels de la critique littéraire, sont les plus acharnés contre l'esprit même de la littérature. Vous dites, Alice Fernet, qu'il se fiche de la politique, c'est vrai, mais d'un autre côté, la politique est un peu présente dans son œuvre. C'est-à-dire, on voit qu'il est coincé entre, d'un côté, une droite américaine de plus en plus effrayante, et c'est Trump qui en est la, si vous voulez, l'apothéose, la caricature suprême. Trump, dont il dit que nous n'avons jamais rien eu qui soit aussi pauvre sur le plan humain que Trump, ignorant du gouvernement, de l'histoire, de la science, de la philosophie, de l'art, incapable d'exprimer ou de reconnaître la moindre subtilité ou la moindre nuance, dépourvu de la moindre décence et maîtrisant un vocabulaire de 77 mots qui mérite plutôt le nom de crétinet que celui d'anglais. Ça, c'est dans la biographie de Blake Bailey. Mais d'un autre côté, on voit aussi la montée terrifiant du multiculturalisme et du politiquement correct. Il dépeint très bien une Amérique coincée entre les deux. Donc de ce point de vue-là, il n'écrit pas de roman politique, mais la société et ses folies, et ses folies politiques, est très présente dans son œuvre, Alice Fernet.
Oui, moi je voulais pas dire du tout qu'il n'était pas intéressé par la politique, qu'il n'avait pas d'opinion, et voire même qu'il n'essayait pas d'agir, parce que moi j'ai été extrêmement... admirative et émue de ses dispositions testamentaires, du don de sa bibliothèque à la ville de Newark, de ses colères quand la municipalité a réduit les crédits accordés aux bibliothèques après la crise de 2008. Donc oui, on voit dans toute sa vie un engagement extrêmement important. Mais c'est pas un donneur de leçons, c'est plus d'ailleurs d'une façon générale. Par exemple, pourquoi est-ce que en effet la communauté juive l'a rejeté? En fait, c'est quelqu'un qui rejette tout prêt-à-penser. Donc, en fait, ce qui l'intéresse, c'est la lucidité. Et cette lucidité, parfois, est assimilée à une pure critique et la critique à une détestation, ce qui, évidemment, n'est pas du tout le cas. Mais donc, je ne veux pas dire qu'il n'est pas engagé.
Hein. Il avait même écrit un roman politique qui n'était pas très bon, Tricard Dixon, une charge contre Nixon. C'était pas ce qu'il avait fait de mieux.
Non, c'est pas ce qu'il a fait de mieux.
Mais la politique, en tout cas l'actualité et la société, infusent tous ses livres. On sort dans Goodbye Columbus, il y a le parfum des années 60. On a l'impression presque d'entendre une chanson de Simon et Garfunkel. Et on voit petit à petit la société évoluer. Et il était très très inquiet de la disparition des vrais lecteurs de fiction. C'est ça qui le terrifiait, j'ai l'impression. Ça se réduit comme peau de chagrin. Il disait bientôt, il y aura 3000 personnes aux États-Unis qui sauront ce qu'est un roman.
Un mot, parce que nous avons bientôt terminé, sur un de ses derniers livres, ces petits livres que je trouve absolument magnifiques, c'est Un homme, Every Man. Et là encore, il dit, mon modèle n'est pas ma vie, mon modèle est Tolstoï. Il a écrit La mort d'Ivan Illich. La vie et la mort d'un corps d'homme. Voilà. Une biographie médicale d'un homme qui est Evreman, donc nous ne savons pas le nom. Et il a cette phrase à un moment donné, la vieillesse n'est pas une bataille, c'est un massacre. Il y a des considérations sur précisément le vieillissement, sur la souffrance. Il y a notamment une femme qui traverse ce roman, Millicent Kramer, qui souffre du dos, qui est son élève, parce que l'élève, le héros est un peintre. Et c'est absolument bouleversant. Qu'avez-vous pensé de ce roman?
J'ai trouvé ça déchirant. On voit qu'il est capable de tout. Là. C'est un écrivain tout terrain. Puis pour ajouter une note optimiste, quand même, faut pas oublier que le dernier mot de son dernier roman, c'est invincible. Et ça résume l'homme qu'il était, l'écrivain qu'il sera par la suite.
Oui, Invincible, c'est le dernier mot de Némésis,
qui est
un roman absolument
sur la folio,
magnifique.
Un très très beau
livre. Imaginons que certains auditeurs n'aient pas encore lu Philip Roth. Qu'est-ce que vous lui conseilleriez à cet auditeur, ou auditrice, pardon?
Portnoy.
Carrément. On ouvre par Portnoy.
C'est la matrice, si on peut dire, c'est le livre le plus amusant, le plus représentatif, et puis tout le reste en découle. Ça a changé à la fois sa vie et sa façon d'écrire, je pense.
Moi, je dirais pas ça, parce que d'abord, Bailey dit que à la fin de sa vie, Roth regrettait presque d'avoir écrit ce livre parce que ça l'a marqué comme une lettre écarlate.
Bah, c'était affreux, tout le monde disait, quand il allait au restaurant, est-ce que vous allez commander du foie de veau?
Il se masturbe dans une tranche de foie de veau.
Moi, j'aurais bien...
C'est sa mode de beurre pour Maria Schneider.
c'est la mode de beurre de Maria Schneider, vous avez raison, Rico.
Moi, j'aurais envie de conseiller un livre dont on parle peu et qui m'avait fait grand effet et pour lequel il dit qu'il avait Henry James et Flaubert comme modèle, c'est Laisser courir. C'est son premier roman, puisque le Goodbye Columbus est formé de nouvelles. Et en plus, il y a un des personnages, enfin le personnage principal, qui s'appelle Gabe Wallach. Et par ailleurs, c'est un livre où il n'y a pas de jeu, justement. Enfin, si, il y a un jeu, mais c'est un jeu qui est un personnage. Et vraiment, justement, dans son idée, le double de Philip Roth, qui est encore ce bon garçon qui veut essayer de devenir meilleur et de faire le bien et qui va aller de Garibansilla en n'y arrivant pas. Mais je trouve que c'est un livre dont on parle peu et qui est très intéressant et qui n'effraiera pas certains lecteurs comme pourrait le faire Portnoy.
Dans un autre genre, il y a Patrimoine, qui est un livre magnifique sur son père.
Alors, pour ma part, je dirais évidemment il y a la trilogie américaine, mais ça, c'est incontournable. Pastorale américaine... J'ai épousé un communiste, ma vie d'homme.
Et la tâche,
la tâche, la tâche.
Pardon.
Oui, la tâche.
Heureusement que vous êtes là. Sans vous, je ne vois pas comment j'aurais fait cette émission. Donc, la tâche, pardon. Et aussi un livre que je trouve absolument fascinant, de virtuosité, d'intelligence.
Sherlock.
Non, c'est La Contre-Vie. La Contre-Vie. Qui dit sur Israël des choses que je n'ai jamais lues nulle part, et pas seulement sur Israël.
C'est vrai. Ouais.
Donc, voilà ce qu'on pouvait dire sur Philip Roth. En tout cas, je vous remercie. Alors, je rappelle aux auditeurs que tous les livres de Philip Roth sont, tous les romans, il y en a 31, sont disponibles aux éditions Gallimard, ceux qu'on a cités, et les autres. Blake Bailey publie, c'est Gallimard aussi qui publie la biographie de Blake Bailey, Philip Roth, traduit de l'anglais par José Camoun. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut avec la collaboration de Corinne Amar, à la réalisation François Connac, à la technique aujourd'hui, Fiong Mai Tran. L'émission de la semaine prochaine aura pour titre V13. Mon invité sera Emmanuel Carrère. Dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeannonet.